Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Allez, c'est le monde aujourd'hui, édition du mercredi 27 août 2014, en direct de Washington. Bagassi Koura et Morgan Guirec. Bonsoir Morgan.
Bonsoir Bagassi. Bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, l'armée camerounaise annonce avoir tué une trentaine de militants présumés de Boko Haram. Pour l'armée camerounaise, la guerre ne fait que commencer.
Rien n'est si simple sur un champ de bataille. Raison de plus pour avoir l'humilité de ne rien présumer, rien déduire hâtivement.
Lutte contre Ebola, la rentrée des classes est retardée d'un mois au Nigeria. Air France suspend ses vols vers la Sierra Leone.
Et crise en Ukraine, des tirs d'artillerie ont fait 3 morts dans le centre de Donetsk, chef-lieu des séparatistes pro-russes.
Situation calme en Israël et dans la bande de Gaza au lendemain de la trêve permanente conclue sous la médiation de l'Égypte.
Et Christine Lagarde, la directrice du Fonds monétaire international, est inculpée à Paris pour négligence dans une affaire d'arbitrage financier.
Et comme toujours en fin d'émission, nos pages sport et musique.
Le Cameroun annonce que son armée a tué une trentaine de militants présumés de Boko Haram qui avaient attaqué des secteurs où se trouvaient près de 500 soldats nigériens qui avaient traversé la frontière. Selon l'armée nigériane, il ne s'agissait pas d'une fuite, mais plutôt d'une manœuvre tactique, Michel Joseph.
Selon la radio d'État camerounaise, les troupes gouvernementales ont repoussé 2 tentatives des militants de Boko Haram d'entrer dans le nord du Cameroun à travers une localité jouxtant l'État de Borno, le fief du groupe au Nigeria. 11 insurgés ont été tués dans les affrontements de mardi et 16 lors d'une précédente attaque lundi. Les soldats camerounais ont saisi des armes lourdes et détruit un des véhicules des militants, dit-on. Après avoir traversé la frontière, les soldats nigérians avaient remis leurs armes aux autorités et le président camerounais Paul Biya avait demandé qu'ils soient reconduits chez eux sous bonne escorte. Selon le colonel Didier Badjek, porte-parole de l'armée gouvernementale, les allégations de défection faites par la presse locale sont sans fondement. Mais, a-t-il dit à la Voix de l'Amérique, la vigilance reste de rigueur étant donné que les militants de Boko Haram peuvent se déguiser en soldats nigérians pour attaquer au Cameroun.
Laissons aux militaires le soin de mener l'art de la guerre tel qu'ils l'ont appris et soutenons-les car le combat est une épreuve et la victoire au bout de la peine. Il se dit bien qu'à vaincre sans péril, l'on triomphe sans gloire. Rien n'est si simple sur un champ de bataille. Raison de plus pour avoir l'humilité de ne rien présumer, rien déduire hâtivement. Tout est une conduite d'hypothèses qui s'élimine progressivement, objectivement et intuitivement pour dégager les solutions les plus défavorables.
On a imputé à Boko Haram une augmentation des enlèvements, combats et actes criminels transfrontaliers à partir de l'État de Borno et une bonne partie des villages voisins où les islamistes nigérians lancent régulièrement des attaques sont de plus en plus désertés.
Épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, un expert de l'Organisation mondiale de la santé, contaminé par le virus, a été transféré à Hambourg, en Allemagne. De son côté, Air France a suspendu ses vols vers la Sierra Leone. On fait le point avec Lionel Gaïma.
Le patient, un épidémiologiste sénégalais, a contracté le virus de l'Ebola dans un laboratoire de l'OMS en Sierra Leone. Il a été admis à l'hôpital universitaire de Hambourg, spécialisé dans le traitement de maladies très contagieuses. C'est le premier patient traité pour l'Ebola en Allemagne. Dimanche, un Britannique atteint de la maladie a été hospitalisé à Londres. La psychose reprend et les mesures de restriction se multiplient. Suivant une recommandation du gouvernement français, Air France annonce la suspension de ses vols vers la capitale de Sierra Leone, Freetown. De même, British Airways a décidé hier de prolonger jusqu'à la fin 2014 la suspension de ses vols vers et depuis le Liberia et la Sierra Leone. Plus de 1400 personnes sont mortes de l'Ebola depuis le début de l'année en Afrique de l'Ouest. La République démocratique du Congo a enregistré pour sa part 13 morts. Pour faire face, les Nations Unies ont déjà débloqué 1,5 million de dollars. Mais aujourd'hui, l'ONU a fait savoir que ces fonds pourraient rapidement doubler.
Et toujours concernant l'Ebola, la rentrée des classes pour les écoles primaires et secondaires est retardée d'un mois au Nigeria pour mettre en place des mesures préventives contre la propagation du virus.
En République centrafricaine, la situation semble se normaliser. À Bambari, les deux factions rivales d'ex-Séléka qui s'étaient affrontées se sont réconciliées grâce à une médiation de l'ONG Pareto. Le point avec Idriss Fall.
Les deux groupes rivaux se sont réconciliés à la mosquée centrale de Bambari grâce à la médiation de l'ONG Pareto et des imams locaux. Cela a permis de ramener à de meilleurs sentiments les hommes du général Joseph Zoundeko et ceux du général Ali Ndaras. La tension a donc baissé d'un cran à Bambari. Par ailleurs, à Bangui, la présidence a indiqué que la récente mission au Bénin pour rencontrer l'ancien président Michel Djotodia s'inscrivait dans la recherche de la paix. Anissé Parfait Guillaume Massogo, porte-parole de la présidence, avait dirigé la délégation qui s'est rendue à Cotonou.
Nous irons vers tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont un rôle à jouer pour le retour de la paix. Parce que c'est ce qui compte le plus. On a l'habitude de dire que la paix n'a pas de prix. C'est cela que nous appliquons au niveau de la présidence de la République. Faire en sorte que ceux qui peuvent apporter un brin de contribution pour que la paix revienne dans notre pays, nous ne devons pas hésiter.
Et malgré les contestations, le nouveau gouvernement se met en place progressivement car plusieurs ministres sont déjà entrés en fonction.
À Agueloc, dans le nord du Mali, le camp de l'ONU a été la cible de tirs de roquettes. Il n'y a pas eu de victimes, mais l'ONU demande à tous les acteurs de prendre leurs responsabilités. Dans la partie magazine, notre correspondant Gao Boubacar Touré reviendra sur cette question.
En Côte d'Ivoire, des audiences publiques devant confronter bourreaux et victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 vont débuter lundi prochain à Abidjan. C'est ce qu'a fait savoir Charles Conan Bagny, le président de la commission Justice, Vérité et Réconciliation, alors que le mandat de cette commission s'achève le 28 septembre prochain. Les audiences seront retransmises en direct par la télévision et la radio d'État.
Au Niger, le bureau politique du Parlement a autorisé ce mercredi l'audition réclamée par le gouvernement de son président Ama Amadou par la justice dans le cadre d'une enquête sur un trafic présumé de bébés venant du Nigeria. La levée de l'immunité parlementaire de M. Amadou n'est pas encore requise à ce stade. L'une des épouses du président de l'Assemblée nationale, considérée comme le principal adversaire du chef de l'État, Mahamadou Issoufou, pour l'élection présidentielle de 2016, est actuellement écrouée dans le cadre de cette affaire.
La police zimbabwéenne a réprimé à coups de matraque une manifestation de l'opposition contre le chômage dans la capitale Harare. Elle a aussi procédé à une douzaine d'interpellations d'après l'AFP.
Un avion d'Air France assurant la liaison Paris-Antananarivo a été dérouté vers La Réunion à cause de manifestations à l'aéroport de la capitale malgache. L'appareil, un Boeing 777-300, transportait 310 passagers et 15 membres d'équipage. D'après l'AFP, le porte-parole d'Air France n'a pas donné d'indication sur les raisons de cette manifestation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise dans l'est de l'Ukraine, des tirs d'artillerie ont fait 3 morts dans le centre de Donetsk, chef-lieu des séparatistes pro-russes. Les rebelles de Donetsk accusent Kiev de bombarder délibérément des zones d'habitation civile. Du côté de Kiev, le gouvernement attend une aide pratique de l'OTAN pour faire face aux séparatistes pro-russes. C'est ce qu'a fait savoir le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk.
Et d'après l'AFP, les rebelles pro-russes ont pris position sur la route entre leur fief de Donetsk et Novoazovsk. Dans le même temps, l'armée affirme que des chars venus de Russie progressent dans le sud de la région de Donetsk. Sur le front diplomatique, les pourparlers inédits entre les dirigeants ukrainiens et russes en présence de responsables de l'Union européenne se sont terminés sans grande avancée.
Des atrocités de masse continuent d'être perpétrées dans la guerre en Syrie. C'est ce que dénoncent les Nations Unies, qui déplorent également un afflux continu de combattants étrangers et la montée en puissance de groupes extrémistes.
En Afghanistan, le recomptage des voix du second tour de l'élection présidentielle est dans l'impasse. Les deux candidats, Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani, se sont retirés du processus supervisé par l'ONU, ce qui complique davantage la fragile transition politique dans le pays. Jean-Roger Billon.
Tout a commencé lorsque le candidat Abdullah a retiré ses observateurs, accusant les assesseurs de refuser d'élargir les critères d'identification des votes frauduleux. Abdullah a qualifié l'audit de farce, Quelques heures plus tard, son adversaire Achraf Ghani a lui aussi retiré ses observateurs. Selon le chef adjoint de la mission onusienne, c'est à la demande de l'ONU que Ghani a pris cette décision pour préserver l'impartialité du processus. Le recomptage des 8 millions de votes exprimés le 14 juin dernier sous l'égide de l'ONU était pourtant dans sa phase finale. Abdullah avait remporté le premier tour de l'élection en avril, mais Ghani l'a devancé dans le décompte préliminaire du second tour. Les deux candidats crient victoire à la présidentielle. L'impasse politique a retardé la signature d'un accord bilatéral de sécurité avec les États-Unis, censé prendre effet lorsque les troupes de combat auront quitté l'Afghanistan à la fin de cette année. De nombreuses régions du pays sont déjà sous le contrôle des forces de sécurité afghanes. Profitant du retrait des forces internationales, des militants talibans ont lancé des offensives majeures dans le sud et dans le nord de l'Afghanistan, faisant des centaines de morts et de blessés.
Le Fonds monétaire international à nouveau dans l'embarras. Sa directrice générale, Christine Lagarde, a été mise en examen à Paris pour négligence, dans une affaire d'arbitrage financier. Madame Lagarde n'entend pas démissionner. Nicolas Pineau.
Les faits de négligence sont reprochés à Madame Lagarde du temps où elle était ministre française de l'économie en 2008. À l'époque, un arbitrage est rendu octroyant quelque 400 millions d'euros à Bernard Tapie pour clore le litige qui opposait l'homme d'affaires au Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas. Depuis le début de l'enquête, le conseil d'administration du FMI a apporté à plusieurs reprises sa confiance à Christine Lagarde. Après sa mise en examen à Paris ce mercredi, la directrice générale a exclu de démissionner. Selon l'agence Reuters, Christine Lagarde considère cette décision totalement infondée et a chargé son avocat de déposer tous les recours. Le FMI est à nouveau sur le devant de la scène, mais l'affaire est sans commune mesure avec les accusations d'agression sexuelle qui ont entraîné la chute en 2011 de Dominique Strauss-Kahn, son prédécesseur.
Voilà, c'est tout pour le journal au micro Bagassi Koura et Morgane Guirec en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. On enchaîne la partie magazine de notre émission. Voilà, quelques jours seulement de la deuxième étape des pourparlers intermaliens à Alger. L'inquiétude gagne les transporteurs sur la route Gao-Kidal. Un camion transportant des vivres a été incendié à 10 km d'Agelok, où un camp de l'ONU a été la cible de tirs de roquettes ce matin. Il n'y a pas eu de victimes, mais l'ONU demande à tous les acteurs de prendre leurs responsabilités. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Hier donc, un camion transportant des vivres qui a quitté la ville de Gao pour Agelhok a été incendié par des groupes armés à 10 km de la ville d'Agelhok. Soumaïla Younoussa, transporteur propriétaire du camion incendié, nous explique.
Avant-hier, les camions ont chargé, ils sont partis sur Tessalit. Donc à 10 km de Agelhok, ils ont arrêté le camion, ils ont fait descendre les passagers, le chauffeur et ses apprentis. Ils ont versé de l'essence sur le camion et ils ont mis le feu là-dedans. Donc le chauffeur, l'équipage du camion, ils sont partis à Galok à pied.
C'est fait quand ?
C'est fait hier soir, vers 18h comme ça. Les chauffeurs sont rentrés dans la nuit à Galok à pied. Donc c'était à 10 km d'Agelhok. Nous, on amène la nourriture de Misma. C'est notre troisième camion comme ça. Donc si ça ne va pas, on est obligé d'arrêter nos camions. Si on nous empêche d'aller là-bas.
Ces nombreux actes posés ça et là risquent de compliquer les pourparlers d'Alger prévus pour le 1er septembre prochain. Boubacar Diko, coordinateur régional des mouvements et forces patriotiques de résistance.
Avant que je ne sois le responsable de cette coordination, je suis quand même responsable du secteur privé. Je suis de la chambre de commerce régionale. Ça fait la troisième fois. Avant hier soir, on nous a sauté deux camions sous des mines. Ces mêmes gens-là qui ont fait sauter nos camions ont démonté tout ce qu'il y a comme pièces importantes sous les camions. On avait dit paix durable, on avait dit réconciliation avec ces frères-là avec lesquels on a eu ces histoires. Mais s'ils continuent à nous brûler des camions qui vont les assister eux-mêmes, parce qu'on peut garer nos camions, nous allons attendre aussi leurs camions ici et ça risque d'être ton coup de pied contre mon coup de pied. Et ça ne résout pas un problème pour moi qui ai vu ces gens-là avec lesquels j'ai discuté en Algérie. Je m'étais dit qu'ils étaient de bonne foi. Si réellement l'opinion internationale à présent ne trouve pas cette solution entre ces populations, ça risque de nous amener dans une guerre que tout le monde ne souhaite pas. Je dirais une guerre civile. et c'est dangereux.
Ce matin encore à 7h15, heure locale, le camp de la MINUSMA d'Aguilhok dans la région de Kidal a été la cible de 8 tirs de roquettes sans faire de victimes. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, Albert Conrès déclare, je cite, « Je demande à tous les acteurs de prendre leurs responsabilités et de plus, j'en appelle au strict respect des accords de cessez-le-feu. Les violations seront rapportées au Conseil de sécurité. » Fin de citation. Cet appel du représentant de l'ONU au Mali sera-t-il entendu par des groupes armés qui occupent le nord du Mali sans être inquiétés? Les jours prochains, nous le dirons. Gaou Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
Et nous restons au Mali, où séjourne pour 48 heures le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés. La situation des réfugiés déplacés de retour à Tombouctou est au cœur de cette visite d'Antonio Guterres. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. C'est fort de cet adage que le haut-commissaire pour les réfugiés en visite au Mali s'est rendu à Tombouctou afin d'échanger directement avec la population de la cité des 333 saints. Mohamed Ould Maouloud Diben, un réfugié de retour.
C'était une tarme, ce n'était. Il a 7 mois à durer, il n'a rien vu autre que les cartes des HR, là, leur ont été retirées et ils n'ont plus rien vu. Ceux qui sont rentrés aussi, c'est la même chose, qui était à la frontière.
Une fois de retour au Bercail, il n'y a aucune structure formelle dans les régions pour accueillir les réfugiés et déplacés. Alpha Gatouré de Direi.
La commune de Dukuria, il y a 80% qui sont revenus. La commune de Sakan, il y a eu 40%. Mais j'ai retourné en désordre. Donc nous demandons l'aide de nos autorités d'abord.
Parmi ceux qui sont de retour, il y en a qui n'ont plus rien dans leur localité. Tout a été détruit par les occupants. Ils reviennent les mains vides comme Fatima Wallet.
Parce qu'avant de quitter, nous avons enfin presque tout vendu. Nos animaux, nos bijoux, tout ce qu'on pouvait posséder comme bien. Au retour, ça n'a pas du tout été facile. Quand je suis revenue aussi, ils ont saccagé toutes les maisons qui nous restaient ici. Donc on n'avait même pas un abri.
Labib Ould Badi, maire de la commune rurale de Salam. Il avait fui les violences. Il nous parle de son retour sur Tombouctou.
J'ai pris mes charges. Je suis retourné avec 5 familles que j'ai pris en charge moi-même. Les difficultés qu'on est confrontées, c'est les services de sociaux de base. C'est que même les infrastructures existantes n'ont pas été réhabilitées. Donc les gens ne manquent pas de l'eau potable. Ils n'ont pas la santé. Ils n'ont pas l'éducation. Une absence d'autorité sécuritaire, une absence d'autorité administrative.
Devant les populations de Tombouctou réunies au centre Ahmed Baba, le haut commissaire pour les réfugiés a pris des engagements, Antonio Guterres.
Et pour que ça puisse se faire d'une façon organisée, il faut la paix, la sécurité et les investissements en éducation et santé et agriculture dans les régions où les gens vont revenir. Et après, l'HCR aura la possibilité d'appuyer le retour.
Il faut signaler qu'avant de quitter Bamako, le haut commissaire des réfugiés aura des entretiens avec le haut représentant du chef de l'État chargé des dialogues inclusifs, Modibo Keïta, le président de la République et certains membres du gouvernement. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Une délégation du gouvernement de transition centrafricain s'est rendue le week-end dernier au Bénin pour rencontrer Michel Djotodia, l'ex-président qui y vit en exil. Nicolas Pino a joint Clément Anissé Guillama Massogo, le conseiller politique de Catherine Samba-Panza qui a mené cette délégation.
Après Brazzaville, il était question d'engager un processus politique de dialogue et de réconciliation qui ne laisserait aucun des acteurs de la crise centrafricaine en dehors du processus. Et donc, Madame la Présidente de la République a souhaité que, en tant que conseiller politique, que je puisse rencontrer l'ancien président de Todia, afin de discuter avec lui de son implication dans le processus politique de dialogue et de réconciliation.
Sous le coup de sanctions américaines, Michel Djotodia est-il le bon interlocuteur?
Aujourd'hui, quand on nous dit d'engager un processus inclusif, il nous faut nécessairement aller vers les acteurs qui ont un impact sur le terrain, qui prennent la décision. Que je sache, l'ancien président de Todia est aujourd'hui le président officiel de la CELECA. Depuis le congrès de Birao, en tout cas, C'est lui qui a été désigné président de ce mouvement. Et donc, si nous voulons véritablement aller vers la paix, en entendant peut-être que cet acteur ne tombe sur le coup de ce que vous semblez évoquer, et nous, on a l'obligation de discuter avec lui, de l'amener à s'impliquer pour la recherche de la paix.
Que vous a répondu Michel Djotodia ?
Mais justement, ce qu'il nous a dit, en substance, c'est que s'il avait accepté de remettre sa démission le 10 janvier 2014, c'est parce qu'il est un homme de paix, qui ne voudrait pas que le sang des Centrafricains continue à couler, que les destructions, les pillages, les vols, etc. s'arrêtent. Et donc, c'était pour sauver la situation du pays qu'il a fait. Et donc, il est encore disposé à apporter sa contribution pour que la paix puisse revenir en République centrafricaine.
Vous entendez également, dans les prochaines semaines, rencontrer le président déchu, François Bozizé.
Exactement. Madame la présidente a clairement affiché la volonté de faire en sorte que tous les acteurs, comme je le disais tantôt, soient impliqués dans la recherche de la paix, de quelque manière que ce soit. Parce que, voyez-vous, dans notre entendement, nous pensons que là où ils sont, ils peuvent faire en sorte que la cessation des hostilités qui a été conclue à Brazzaville puisse devenir une réalité et que, lié à cela, que le désarmement puisse se mettre en place. Parce que c'est eux qui sont à la tête de ces différents mouvements, que ce soit la Séléka ou le mouvement anti-Balaka. Et donc, si nous ne discutons pas avec eux et que nous continuons à travailler avec les supplétifs, peut-être que c'est là où nous n'allons pas atteindre l'objectif de la paix. Et donc voilà un peu la préoccupation qui est celle de Madame la Présidente de la République et que j'essaie de traduire dans les actes.
Voilà, c'était Clément Anissé Guillaume Massogo, joint à Bangui par Nicolas Pinault.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, comment en finir avec l'État islamique, le groupe terroriste le plus dangereux et le mieux financé sur la planète ? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
Situation calme en Israël et dans la bande de Gaza au lendemain de la trêve permanente conclue sous la médiation de l'Égypte. 50 jours de conflit ont fait plus de 2100 morts côté palestinien et 70 côté israélien. Et la bande de Gaza est en ruine suite aux raids aériens israéliens. Timothée Donangmaï a joint sur place notre correspondant Scott Bob.
Eh bien, on a vu une journée calme pour la première fois depuis presque 2 semaines. Vraiment, on a le sens que cette trêve vraiment est pour du bon, enfin c'est sérieux des deux côtés. Et certains résidents qui ont été déguerpis à cause des conflits se sont vus en capacité de rentrer chez eux pour inspecter leur maison et voir les dégâts et essayer de récupérer ce qu'ils pouvaient. Du côté Israël, les habitants des communautés kibboutz près de Gaza, beaucoup ne se sentent pas en mesure de rentrer chez eux, toujours un peu méfiants que cet accord va tenir, comme il y a eu tellement d'autres qui ne l'ont pas. Et donc, il y a un peu moins de confiance, disons, de ce côté-ci.
Israël, comme le Hamas, présente cette trêve comme une victoire.
Bien sûr, il lui fallait ça, parce que Hamas avait beaucoup de problèmes. On peut peut-être voir une certaine mesure d'accomplissement, si ça tient, et on peut en discuter un peu après. Il fallait déclarer la victoire pour pouvoir arrêter de se combattre, parce qu'ils avaient juré de ne pas arrêter s'il n'y avait pas eu des concessions du côté de l'Israël.
Côté israélien, il semble y avoir quelques frictions au niveau du gouvernement concernant cette trêve.
La moitié du cabinet de sécurité, qui comprend 8 ministres très importants, n'était pas d'accord pour arrêter les combats. Et le grand public, en majorité, du côté droite comme gauche, voulait vraiment continuer jusqu'à ce que cette menace des roquettes et des mortiers venant de Gaza était complètement éliminée. Alors, il y a eu beaucoup de critiques du Premier ministre des deux côtés. Les Palestiniens sont beaucoup plus contents aujourd'hui, en grande mesure, que les Israéliens.
Un convoi humanitaire du PAM venant d'Égypte est entré dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, quelle est la situation? Quels sont les besoins humanitaires à Gaza après ce conflit?
Eh bien, elles sont énormes. Disons que l'alimentation est peut-être un des moindres cette fois-ci, parce que quand même il y a eu des transferts d'aliments pendant toute la guerre, mais c'est du côté de sanitation, d'eau potable, de courant, etc., où vraiment on voit un grand manque de services. On voit ici avec ce premier transfert l'accord de l'Égypte. L'Égypte a joué un grand rôle dans cette trêve, parce qu'avant cette semaine, l'Égypte était complètement contre l'ouverture de Rafah, qu'il contrôle. Donc, on pense que l'Égypte a, pour encourager le cessez-le-feu, s'est vu en mesure de assouplir un peu sa position sur la frontière avec le Gaza.
Voilà, c'était le correspondant de La Voix de l'Amérique, Scott Bob, joint à Jérusalem.
Alors, Twitter 55 sur La Voix de l'Amérique, je reçois Nicolas Pinopoulos. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
Alors, on commence par du football et cette nouvelle de Bamako, le Mali qui va postuler pour l'organisation de la CAN 2017.
Eh oui, après le désistement de la Libye en raison de l'instabilité dans le pays, la Fédération malienne de football fait donc acte de candidature. Nous avons reçu l'aval politique des plus hautes autorités du Mali, a déclaré le président de la FEMAFOOT, Boubacar Baba Diarra. Déjà organisateur de l'édition 2002, le Mali devrait faire face au Ghana, qui a déjà posé ses actes de candidature. Les pays souhaitant organiser cette CAN ont jusqu'au 30 septembre pour se faire connaître auprès de la Confédération africaine de football.
Et le président de la Fédération nigériane de football a, lui, été relâché.
Aminu Maigari est sorti de prison, selon l'un de ses proches. Pendant son absence, un nouveau président a été élu lors d'une assemblée générale tenue hier soir. Maigari devait présider l'assemblée générale de 44 membres, reconnus par la FIFA, afin de mettre en place les modalités de l'élection du futur président et de son comité exécutif. Rappelez-vous, Bagassi, le 9 juillet dernier, la FIFA avait suspendu la Fédération nigérienne de football en raison d'ingérence gouvernementale avant de lever cette mesure 9 jours plus tard.
Et puis, transfert, Samuel Eto'o qui poursuit en Angleterre.
Sans club depuis la fin de son contrat avec Chelsea en juin, le Camerounais s'est engagé pour 2 ans avec Everton. Samuel Eto'o, 33 ans, pourrait effectuer ses débuts avec Everton dès samedi en championnat. Ce sera justement face à Chelsea.
Enfin, les barrages de retour en Ligue des Champions ce soir.
Et oui, les Suédois de Malmö qui accueillent les Autrichiens de Salzbourg. Ludogorets contre le Steaua Bucarest. Le choc en Angleterre, Arsenal contre le Besiktas. Et puis en Allemagne, le Bayer Leverkusen contre le FC Copenhague. Et l'Athletic Bilbao qui reçoit Naples. Hier soir, le Standard de Liège éliminé par le Zenit Saint-Pétersbourg. Défaite 3-0. Porto a éliminé Lille 2-0. Le Celtic Glasgow s'est incliné devant Maribor 1-0. Et puis l'Apoel de Nicosie a éclaté Aalborg 4-0. Victoire facile du Bate Borisov 3-0 contre le Slovan Bratislava.
Voilà, merci Nicolas Pinot pour le sport.
Voilà, l'émission touche à sa fin et avant de se quitter, on écoute Amadou Balaké, un musicien du Burkina Faso, le pays de Bagassi Koura.
Oui, il nous a quittés malheureusement aujourd'hui donc au Burkina et on lui rend hommage.
Yeah.
C'était donc Amadou Balaké du groupe Africando. Amadou Balaké qui nous a donc quitté aujourd'hui. C'est donc sur ces notes que s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Fagassi Koura et
Morgane Diriek.
Et donc Lionel Gaïmet était à la réalisation. Et on se retrouve dans une demi-heure.